Bienvenue à Objectif numérique, épisode 26. Au menu, un premier défi photo pour vous les auditeurs, l'Equinox Caméra, tablette ou portable, un petit débat, et le test du Nikon D600. Alors on y va, messieurs, Christian Jarry.
Bonjour.
François Blanchette.
Salut Stéphane.
Et moi-même, Stéphane Vaillancourt. On a pour vous, chers auditeurs, un premier défi photo. Oui, oui, nous allons mettre vos connaissances et votre talent à l'épreuve.
Voir si vous nous écoutez vraiment.
Oui, oui, on va voir si toute cette théorie peut se mettre en pratique maintenant.
Mm-hmm.
Donc, on vous propose un premier défi qui consiste tout simplement à nous envoyer une photo de printemps, donc qui illustre le printemps. Il n'y a pas vraiment d'autres thèmes, il n'y a pas de couleurs imposées, de quoi que ce soit. Donc, vous nous soumettez une photo à l'adresse podcast@objectifnumérique.com et ensuite, on va la mettre dans les notes d'épisode et ensuite, les gens pourront voter pour leur photo préférée. Et comme ça, vous allez accumuler des points et le gagnant pourra se voir attribuer un prix, peut-être, éventuellement, si on a des commanditaires.
Est-ce que je peux participer?
Non, Christian, tu ne peux pas.
Et puis moi, est-ce que je peux?
Non plus. Mais évidemment, je voulais aussi juste aborder quelques petits conseils si jamais vous souhaitez participer au défi, qui, soit dit en passant, c'est pas un concours à tout casser. Là, c'est simplement pour s'amuser, pour voir ce dont vous êtes capable ou pour vous pratiquer tout simplement en vue de participer à un plus gros concours. Donc, c'est ça. Si un jour, vous avez envie de participer à un concours photo, bien, quelques petits conseils de base s'imposent, soit évidemment de bien lire les instructions et les règlements, y compris les dates, donc la date limite de participation. Ensuite, bien, de vérifier. Peut-être vous avez déjà une ou plusieurs photos qui répondent aux critères. Et si c'est le cas, bien là, vous avez un choix à faire. Quelle photo va répondre le mieux, justement, aux critères qui sont imposés ou aux sujets. Et si vous n'avez pas de photo, bien voilà une excellente occasion de sortir pour faire de la photo et de mettre toutes ces notions en pratique. Je ne sais pas si vous avez d'autres conseils, messieurs?
Évidemment, c'est le temps d'utiliser ces jouets qu'on vient d'acquérir. Le fameux petit Gorilla Tripod ou le petit réflecteur qu'on s'est trouvé sur eBay. Absolument. C'est vraiment, il faut être créatif hein, avec ces concours-là. Il faut vraiment trouver la chose qui fait que ça va se démarquer des autres.
Oui.
Alors, souvent, c'est avec des petits accessoires ou avec des petits trucs. Vraiment, là, des trucs ghetto. Là,
ça peut être une question d'angle, parfois, tout simplement, ouais. Ou de lumière, évidemment. La photo repose sur la lumière. Donc, des fois, juste un petit détail dans l'éclairage peut vous donner un avantage dans un tel concours.
Oui, les concours qui permettent les retouches photo, ben il ne faut pas en abuser non plus.
Hein, oui, et justement, vérifier si les concours ne le permettent pas,
ouais.
Eh bien, vous n'avez pas le droit. Donc, vous allez être disqualifié si vous faites des retouches. Évidemment, nous, notre défi photo, c'est libre. Tout est ouvert. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais parfois, trop, c'est comme pas assez, comme
ouais.
On dit. Donc,
ça donne rien. Si votre ciel est vert, on va peut-être. Mettons que.
Ouais, puis photoshopper quatre oiseaux, tu sais, la même image de l'oiseau quatre fois dans l'image. Non, tu sais, quatre hirondelles pour représenter
non, c'est
le printemps.
Ça, ben, bon. En fait, on peut ajuster des trucs, mais c'est ça. On ne fait pas un montage Photoshop. Là, on parle vraiment d'une photo
non,
que
mais
vous pouvez ajuster.
J'aime mieux avertir.
Oui, oui, absolument. Donc, c'est ça. Premier défi photo qui va peut-être s'échelonner sur 3-4 semaines. On va vous laisser le temps d'absorber toute la théorie des épisodes précédents, puis de vous pratiquer, puis de profiter du plein air aussi, du printemps. Donc, amusez-vous, puis surprenez-nous.
Oui.
On veut s'amuser
on a hâte de voir
aussi,
ça.
Tout simplement. Ben oui. Puis là, Christian va nous parler d'un petit appareil photo intéressant, ben, en fait spécial, hein? c'est le moins qu'on puisse dire, l'Equinox Caméra. Donc,
honnêtement, là, cet appareil-là pourrait être c'est bien sûr, c'est rien qu'un concept. Faut-il bien spécifier, là. Il n'y a pas rien de concret encore vraiment.
Mm-hmm.
Mais on parle d'un appareil qui a le potentiel d'être ce que vous voulez, quand vous voulez.
Personnalisable.
Personnalisable complètement. On pourrait même, sur le même appareil, changer la bague qui permettrait d'avoir des objectifs ou Nikon ou Canon.
Okay.
Fait qu'on pourrait avoir un capteur différent. On pourrait, tu sais, si mettons une meilleure technologie arrive, on change une partie de l'appareil, on a un nouveau capteur. Ouais. On peut. C'est complètement modulaire.
Mm-hmm.
C'est. Il y a une expression.
C'est un appareil IKEA ou quoi?
Oui, 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 on pourrait dire ça. Mais c'est également ce que je voulais dire, c'est un wet dream pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
Okay.
Parce que c'est. Imaginez, là, comme je dis, là, je sais pas, moi, votre appareil a 2-3 ans, puis souvent, ben, les nouveaux capteurs ont des nouvelles fonctionnalités, plus grande sensibilité, tout ça. Plutôt que de prendre votre appareil et d'être obligé de le changer au complet, on change une partie de l'appareil, le reste fonctionne encore. C'est incroyable.
Ça pourrait être intéressant, ça, oui. Ouais. Changer la disposition des boutons sur le boîtier si elle vous plaît pas.
Ah ouais, exact. Ouais. Exact. Puis bon. Je dirais pas que, ben c'est sûr, encore une fois, ce n'est qu'un design, là, c'est juste une étude de concept, etc. C'est sûr que étant modulaire, c'est pas le côté visuel qui est son fort.
Non.
C'est pas, mettons que...
Ça ressemble à un ensemble de pièces Lego.
Ben ouais. Non, j'aime mieux l'idée IKEA de Stéphane, ouais, vraiment. Ouais, là,
un
c'est,
hybride entre les deux, en fait. Hein. Mais on mettra des photos dans les notes si vous voulez aller voir.
C'est
là.
Pas laid, mais c'est pas...
pas très beau non plus.
Non plus. Puis la seule chose, par contre, je dois dire qui m'inquiéterait un peu, c'est que souvent, les appareils sont pensés pour avoir une certaine ergonomie. Là, on parle vraiment de la prise en main, etc. Ce côté-là... on a l'air moyen un peu, là. Mm-hmm. Dans le sens que c'est pas autant moulé, c'est pas aussi... en tout cas, je sais pas. T'sais, ce côté-là, m'a rapidement, là, ça m'a fait moins. Disons que là-dessus, il va falloir qu'il fasse une amélioration. Là.
Mm-hmm.
Mais... Je regarde la photo, là, ça me fait penser à Ebita 67, là,
Montréal.
Ouais, ouais. Mais tu sais, en tout cas, je sais pas. Disons que, tu sais, je sais que, comme j'ai déjà parlé, il y en a beaucoup qui ont tendance à dire que... à tort ou à raison, les objectifs, mettons, Canon sont très, très bons. Je ne dis pas que les Nikon sont pas bons. Là. C'est vraiment, moi, c'est ce que je disais, qu'il y a beaucoup de monde qui préfère les objectifs Canon. C'est une des raisons pourquoi ils seraient les plus vendus. Est-ce que c'est vrai ou pas, j'en ai aucune idée, je pars pas là-dessus. Mais disons que on spécule. Quelqu'un qui voudrait un capteur un peu plus Nikon, parce qu'eux autres, souvent, sur certaines choses, ont, avec les objectifs Canon. Tu sais, il y aurait moyen de faire comme le meilleur des deux mondes pour quelqu'un comme ça. Tu sais, je pense à ça puis je me dis, waouh, ça serait vraiment quelque chose. Hein. Ça veut pas dire non plus qu'on va jamais vraiment voir ça.
Mais
comme
il faudrait
appareil.
Que tous les fabricants participent à ce genre de projet-là. Les...
Ouais. Et... Je sais pas, ouais. C'est ça, on sait pas
c'est
qu'est-ce
pas
qu'ils vont
dans
faire
leur
avec
intérêt,
ça.
Hein,
pas vraiment, non. Pas vraiment. Fait qu'en tout cas, je sais pas. Tu sais, c'est un projet qui est très, très intriguant.
Ouais.
Mais si vous voulez mon humble avis, autant ça a l'air très intéressant. Tout ça, d'après moi, on verra jamais ça.
Mm-hmm.
D'après moi, on verra. Je sais qu'il y a un fabricant, je me rappelle pas lequel, qui permet... C'est une... c'est vraiment comme plus un compact, mais qui, tout l'avant, tout l'objectif s'enlève... Et on peut en mettre un nouveau.
Okay.
Je pense que c'est du Sigma, ou en tout cas, je le donnerai dans les notes quand je le retrouverai, là, mais ça, c'est déjà un peu plus crédible. Mais c'est j'aurais peur à la solidité. Qu'est-ce qui arrive si on échappe cet appareil-là? C'est tous des morceaux qui sont assemblés.
En fait, il n'y a rien qui pourrait casser ou craquer. Ça se séparerait tout à l'impact.
Ce qui n'est pas mieux. C'est pas vraiment mieux, honnêtement. Là, c'est...
Ouais. Si ça sépare de force, c'est pas une bonne idée.
Non,
c'est ça. Ouais. C'est... Je sais pas. En tout cas, c'est quand même intéressant, là, tu sais, le concept est là, mais en tout cas, j'ai mes doutes, disons.
Mm. Ouais. À suivre. Et maintenant, on va, comment je pourrais dire, on va discuter sur le sujet, hein, parce qu'il y a un auditeur qui nous avait posé la question, malheureusement, je n'ai pas retrouvé son nom. Quelle tablette serait bonne pour visualiser ou éditer des photos? Et en fait, on a décidé de voir un peu plus large et... se demander est-ce que c'est préférable d'avoir une tablette ou un ordinateur portable à prix égal ou similaire? Qu'est-ce qui ferait le meilleur boulot pour montrer des photos à quelqu'un ou retravailler des photos tout en étant mobile? Donc, c'est un aspect important. Évidemment, aujourd'hui, on aime pouvoir traîner nos photos avec nous, puis pouvoir faire des retouches, c'est ça, on the fly, comme on dit.
Selon moi, ça fait aucun doute, mais absolument aucun doute, qu'on s'en va vers la tablette. D'ailleurs, j'ai lu aujourd'hui un article qui disait que la vente de PC tombait de 13%, je pense, dans la dernière année, quelque chose comme ça.
Okay,
mais ça, on le sait que ça s'en vient, là. Mm-hmm. C'est un fait. Maintenant, là,
oui, mais ça, c'est pas dû à cause des tablettes, parce que j'ai lu un truc du genre, et c'est tout simplement dû au fait que les PC, la loi de Moore ne s'applique plus, ou pas au même niveau, et les PC durent plus longtemps qu'avant, donc c'est pas le fait que les PC deviennent moins intéressants à l'achat, c'est qu'on on les a pour plus longtemps, au lieu de les garder 3 ans, on va les garder 4, 5 ans et 6 ans.
Ouais, mais je pense pas que c'est ça. Moi, je pense vraiment qu'on est de plus en plus mobile, puis que les appareils mobiles sont de plus en plus performants.
Mm-hmm.
Je pense que c'est ça qui fait que les... En fait, c'est ceux qui vont rester, c'est les professionnels avec des appareils de bureau.
Mm-hmm.
Regarde-moi.
Je suis pas d'accord. Mais
les gars, vous travaillez avec des ordinateurs de bureau.
Oui.
C'est votre travail d'être devant des ordinateurs de bureau.
Je sais, mais moi, pour mes photos, je travaille toujours avec un portable. Toujours. Toujours mes photos sont dans mon MacBook qui est un portable. Puis je ne me vois pas utiliser une tablette pour faire ça.
Tu fais quand même beaucoup de retouches. Il y a une différence à faire avec les gens qui vont faire un peu de retouches, pas beaucoup. Un laptop, c'est quand même, ça reste un peu plus puissant qu'une tablette pour l'instant.
Oui, mais...
À cause de sa manipulation ergonomique.
C'est même pas là, moi, qui est mon problème majeur. C'est l'espace.
Ouais.
Quand on est rendu... quand on est rendu à avoir un iPad à, disons, 128 gigs, de gigaoctets de mémoire, c'est parce qu'on est rendu dans quoi? Ça doit être 700-800$ maintenant, à peu près. Mm-hmm. Rendu à ce point-là, c'est parce que le plus petit MacBook, exemple, à 64 gigaoctets, est 1000$. Mais t'as pas mal plus de puissance, t'as pas mal plus de choses, c'est un disque dur SSD. Je sais pas. Moi, qui est mon problème. Moi, c'est vraiment l'espace. Puis il y a aussi le fait que si tu te contentes juste de changer un petit peu, mettons, le contraste, le ci, le ça, OK. Fine, oui, pourrais.
Non, ça, on s'entend là-dessus.
Mais après ça, tu fais quoi avec ta photo? Tu peux pas laisser dans ton iPad? Là, faut que tu la restores quelque part. Je sais pas. Non, je me vois mal. Puis, tu sais, autant j'apprécie la rapidité et la commodité d'une interface touch, juste au toucher, autant pour retravailler des photos ou des affaires comme ça, je me vois pas du tout utiliser une interface touch. Vraiment pas.
Souvent, surtout dans, mettons, Photoshop, plus que Lightroom peut-être, c'est plus pratique d'y aller avec la souris que sur une interface tactile parce qu'il y a tellement de petits boutons, de petites fonctionnalités. Il faut que l'interface soit bien adaptée sur une interface tactile pour que ça soit aussi efficace, si on veut.
Rapide à utiliser.
Je pense aux tablettes graphiques, moi. Ceux qui font de la retouche photo, sérieusement.
Ils ont un crayon.
Ils ont un crayon, une tablette graphique. Ben, ça s'apparente beaucoup au toucher là, sur l'écran.
Non. Non. Désolé, vraiment pas. Moi, j'en ai une à la maison. Puis, je vais donner le meilleur exemple de ça. Essayez de dessiner sur un iPad versus dessiner sur une tablette graphique. Oublie ça.
Et de toute façon,
pas du tout de la même...
C'est pas la même chose.
C'est la même chose.
Sur un écran tactile, là, dès que tu appuies ta main, tu viens de faire un contact puis tu peux activer quelque chose. Tandis c'est différent d'une tablette graphique où c'est le crayon seulement, le stylet, qui active la surface.
Mm-hmm.
C'est pour ça que si tu veux faire des manipulations sur une interface tactile comme l'iPad, tu as intérêt à y aller avec seulement le bout d'un doigt et faire attention où tu poses tes mains dans l'écran.
Mm-hmm.
Parce que moi, j'ai devant moi mon fameux Asus Taichi, qui est, d'après moi, le meilleur des deux mondes, mais qui n'est pas encore au point. On a l'interface tactile, on peut montrer à quelqu'un des photos, on peut les afficher en plein écran, puis ça a une résolution 1080p, donc l'image est très belle. Par contre, pour faire de la retouche, j'ouvre le capot et je tombe en mode portable avec une petite souris tactile ou quelque chose comme ça parce que l'interface tactile en 1080p, c'est drôlement petit dans certains logiciels, là, justement comme Photoshop ou un truc du genre. On parle de 1920 par 1080 sur un écran de 11,6 pouces. C'est
pas gros.
Les boutons sont petits.
Puis si tu viens d'en donner un autre point, c'est que 10 pouces, c'est pas gros. ah non, pour travailler des photos. Pour les afficher, pour l'utiliser comme portfolio, définitivement.
Oui, absolument. Ça,
sans problème, même que j'ai pensé à le faire, définitivement.
Ou pour dépanner.
Pour dépanner, c'est sûr et certain, là, pour faire rapidement des petites choses, ça oui. Mais remplacer un portable par une tablette, vraiment pas. Même, j'irais sans hésitation à une tablette bas de gamme. Mettons qu'on on donne un exemple, c'est quoi? C'est 500$ le iPad 4?
Oui, je pense.
À peu près.
Le
new iPad, oui. C'est à peu près 500$. À 500$, là, maintenant, on est capable d'avoir un portable très respectable. Là. C'est pas une bombe, c'est pas rien. Puis assez là, pour faire un travail plus que potable là, avec vos photos.
Oui, mais
là.
C'est moins sexy pour justement montrer son portfolio.
Pour un portfolio, définitivement. Aucun doute. Ouais. Aucun doute. Mais pour travailler ses photos, je suis vraiment pas convaincu.
Hein. Oui. Mais tu sais, travailler ces photos, là, tu veux-tu les faire sur ton laptop ou tu veux les faire à la maison sur ton ordinateur de bureau? T'sais, c'est là que moi je trouve que... Tu sais, on parle de comparer tablette et laptop, mais dans le fond, la vraie retouche photo, tu fais... Je sais pas. Sur un laptop, c'est pas idéal.
À t'sais. Moins d'aimer travailler dans un café ou un truc du genre que t'aimes pas travailler à la maison, tu veux un environnement un peu plus dynamique, si on veut.
Ouais. Oui, la connexion Wi-Fi gratuite.
Oui, c'est ça. Mais à ce moment-là, ben moi, j'opterais pour un portable qui a un écran un peu plus gros, là, quelque chose dans le bout de 14 pouces, là, qui donne 35 cm.
Ouais, tu vois, mon MacBook est 13 pouces. Mm-hmm. Puis justement, moi, j'avoue que ce qui me bug, c'est que justement, je voudrais pas un MacBook à 11 pouces. Le nouveau MacBook Air à 11 mm-hmm. pouces, ça, je le trouve petit.
Je trouve ça petit.
Ouais. Je voudrais au minimum le 13.
Mm-hmm.
Mais c'est ça. C'est sûr que tout est une question de goût et d'habitude. Puis ça. Mais
c'est une question de portabilité, justement. Le 11 pouces va être plus petit, plus compact à traîner dans un sac que le 13, 14 ou 15 pouces.
Mm-hmm.
Donc, il y a plein de facteurs à prendre en considération. Puis... En tout cas, le Tai Chi, ce que j'aimais, c'est qu'il était dans une catégorie à part, mais c'est, comme je dis, c'est pas un appareil parfait. Il y a des petits bugs au niveau logiciel, il y a des trucs au niveau matériel aussi qui sont pas au point. Mais d'avoir la possibilité, justement, d'avoir un écran tactile sur le dessus, puis quand on l'ouvre, ou même à la limite, d'ouvrir le capot, puis d'afficher soit la même chose ou autre chose complètement différente.
C'est très intéressant.
Ouais. Non, le côté hybride de ça, c'est vraiment intéressant, c'est sûr. Là. Ouais.
Mais par contre...
C'est la portabilité où tu perds un peu versus un iPad, disons.
Oui, c'est ça. C'est un peu plus épais et un peu plus lourd qu'un iPad, on s'entend. Mais si, justement, je veux montrer mon portfolio, je peux le faire. Et si j'ai à retoucher quelque chose, je peux le faire aussi. Mm-hmm. Par contre, comme je disais, c'est pas parfait. Surtout au niveau matériel, l'autonomie n'est pas là. On parle de 3h30 peut-être de batterie.
Ouais.
Un iPad, on parle de 10 heures. Donc, on est aux antipodes. Là.
Il y a ce côté-là qui peut être intéressant du iPad. Je ne dirais pas le contraire. Ben, évidemment, bien sûr, en passant, on dit iPad, là, mais Android aussi a des excellentes tablettes. On y va juste avec ce qui est le plus commun.
C'est
là,
ça. J'avais la Transformer, la première Transformer.
Qui était très bien, d'ailleurs. Oui.
Et avec son clavier, son socle clavier, qui offrait une deuxième batterie qui doublait l'autonomie, je tombais à près de 16 heures d'autonomie.
Ah, c'est excellent.
Ça, c'est génial. J'avais un lecteur de carte SD complet et un logiciel qui pouvait lire les RAW de mon appareil Canon. Mm. Je mettais mon fichier RAW, j'ouvrais un logiciel d'édition photo, merci, bonjour, mais c'est encore presque un portable, mais qui roule sous Android, avec un écran tactile. C'était comme un hybride d'un peu de tout. Mais encore là, je ne l'ai pas fait souvent parce que c'est un écran 10 pouces. Mm-hmm. C'est pas assez grand.
Non.
Donc, mais ça dépend en vacances, à l'extérieur, mais c'est pas un outil qu'on peut utiliser tous les jours.
C'est simplement pour prendre quelques photos, puis de les prendre, les éditer, puis les envoyer sur Internet. Ça fait définitivement le travail. Ouais. Tout ce que je dis, moi, c'est je vois pas ça remplacer l'outil de façon un portable de façon complète.
Mm-hmm.
Ça, je le vois
pas. Pas pour le moment,
tout.
En tout cas. Là. Peut-être que, c'est ça, il y aura une espèce de stylet spécial ou parce que moi, c'est ça qui m'embête un peu parce que ça me le fait, en tout cas sur le Tai Chi, c'est que j'ai un stylet aussi dont je peux me servir, mais quand je m'appuie avec mon stylet pour faire quelque chose, ben des fois, ma main va faire un contact sur l'appareil.
Ce qui n'arrive pas avec une tablette de dessin non
plus. Exactement.
C'est juste le crayon qui va... Ouais,
ouais, c'est ce que je disais tantôt. Donc.
Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas.
Donc, avant de dire, ah, c'est tel appareil qui est le summum ou qui est le...
Ben, ça revient toujours à dire qu'est-ce que je dis depuis le début pour les appareils. Quels sont vos besoins,
mm-hmm.
puis qu'est-ce que vous voulez faire, puis allez-y avec ça.
Puis quel est votre budget aussi.
Oui, 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 c'est sûr et certain, là, c'est sûr.
C'est ça. Sinon, que ce soit tablette ou même les portables d'aujourd'hui, la plupart sont sur disque SSD. Donc, ouais. Que ce soit un iPad à 64 gigaoctets ou un Tai Chi à 64 ou 128.
C'est sûr que, tu sais, je veux dire, tu sais, je peux me faire moi-même l'avocat du diable, tu sais, je peux voir, mettons, comme un iPad, je disais, ce qui peut être le problème, c'est l'espace, mais on peut, je sais que, mettons, comme l'exemple, l'iPad a des adaptateurs qui permettent de rentrer votre carte SD directement.
Mm-hmm.
On prend la photo, on l'édite, ouf, on l'envoie tout de suite sur son Flickr, sur son SkyDrive, sur son ci, sur son ça, fait que, en fait, en réalité, il restera jamais dans votre iPad. Ouais. C'est sûr que je le vois, mais moi, je sais pas. C'est peut-être une habitude, je sais pas.
Ben, c'est ça, c'est une question aussi de workflow, entre guillemets, ouais. de méthode de travail, comme on parlait, c'est à l'épisode 17, le workflow, je crois.
Bonne mémoire.
je vois souvent les notes.
Il a pris une chance.
Oui, ça doit être ça.
Mais ça dépend de votre façon de travailler aussi, tout simplement. Il y a des gens qui vont s'adapter à peu près n'importe quoi.
Tout à fait.
Puis il y en a d'autres que ça prend vraiment une structure autour, puis tout un environnement.
C'est juste un exemple que je donne comme ça. Là. Mais tu sais, quand on disait que, mettons, exemple, le doigt, je trouve ça trop gros pour travailler.
Mm-hmm.
C'est, j'étais dans un peu, j'avais une photo de mon gars que j'ai retrouvé, que j'ai pris il y a super longtemps, puis qui était super bonne. J'étais comme, OK, je l'ai manqué celle-là, mais tu sais, dans le sens que je l'avais pas vue.
Mm-hmm.
Puis je la regarde, puis il y a trois points. C'est juste des petites saletés, mais... trop évident, là. Vraiment trop évident. Ben, j'ai juste pris Aperture, juste changé une petite affaire. Mais là, il aurait fallu que je zoome au bout, que je touche un petit peu, que je fasse ça. Avec Aperture, avec la souris, ça a été clac, 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 ouais. Il est disparu.
Mm.
Là, il est l'autre, faut que tu zoomes, faut que tu touches, faut que tu fasses attention. Ah non, je l'ai pas...
Ouais, ouais, ouais.
C'est pas... C'est pas aussi précis, là. Mm-hmm. C'est...
Ou c'est une question d'habitude, mais peut-être. Il faut prendre les peut-être. Heures pour réussir à avoir peut-être. La même technique, la même vitesse avec les doigts.
Peut-être. Comme tu dis, c'est sûr que l'habitude y est aussi. Là.
Bon. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous pouvez nous laisser vos commentaires, si vous voulez, dans les notes d'épisode. Ça va nous faire plaisir de les lire et peut-être de discuter avec vous, d'argumenter. Et on va maintenant conclure cet épisode avec la critique du Nikon D600 que Christian a eu la chance de tester.
Et oui, c'est, je pourrais dire, ma première incursion dans le monde Nikon à long terme. J'ai déjà testé, etc. Et on va y aller tout de suite avec la première chose. Ça a été extrêmement positif. Vraiment, c'est un appareil superbe. Je dois dire que j'ai été charmé par cet appareil-là, plus que ce que je pouvais m'imaginer.
Mm-hmm.
Bon,
t'avais des préjugés, là, pour ça.
Oui.
Des réticences, je dirais aussi, peut-être.
Ouais. Oui, mais en même temps, il y a une partie qui est restée, parce que peu importe qu'est-ce qu'on en dise, reste que chaque personne a sa façon de fonctionner, comme on disait, puis j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère avec la façon de fonctionner des interfaces de Nikon. C'est moi, là. Je sais, je dis pas que l'interface est moins bonne que Canon, c'est vraiment moi. Il y en a beaucoup qui me disaient, ah, mais moi, je suis très à l'aise avec le bouton à l'avant, la molette qu'on tourne. J'aime pas sa location, je préfère celle du Canon qui est sur le dessus. Il y en a qui aiment ça avoir l'autre molette à l'arrière. Moi, je préfère avoir ma roue. C'est une question de goût, je le sais, j'en suis conscient, puis ça, c'est correct. Les menus, j'ai trouvé qu'ils étaient personnellement très lourds parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est fun, c'est puissant, il y a beaucoup de choses. Je comprends aussi que c'est une caméra professionnel dans le cas présent, mais...
Oui, parce qu'on parle d'un appareil avec un plein capteur
oui,
là, dans le cas du
D600. Oui, exactement, c'est ça, je vais y revenir, mais oui. Je trouvais que... J'ai trouvé un peu lourd, les menus. Mm-hmm. Personnellement, il y a certaines choses que j'ai vraiment cherché longtemps à essayer de trouver où c'est qui était, là. Mais
surtout
bon.
Quand c'est un nouveau système, là.
C'est ouais. ça. Probablement que quelqu'un qui est habitué à Nikon les aurait trouvés facilement,
ouais,
là. Tu sais, j'en suis conscient,
c'est
là.
C'est sûr.
Parce qu'on teste du Panasonic, du Fuji, de l'Olympus. Il y
ouais,
en
oui.
a qui sont plus simples que d'autres. Il y en a qui...
Ben, rappelez-vous, la X100 que j'ai adorée, j'avais dit que les menus, vraiment, me plaisaient pas. Puis ça n'a pas changé. Ils me plaisent toujours pas beaucoup. Mais tu t'habitues. C'est sûr et certain qu'on s'habitue. Mmh. La deuxième fois que j'en ai eu un autre Fuji puis que c'était la même chose, ben c'était moins pire un peu. Mmh. Bref, je vais y aller un petit peu avec les spécifications de l'appareil. On parle d'un capteur plein format de 23,3 mégapixels.
Mmh.
D'ailleurs, quelque chose que j'ai trouvé très intéressant qui n'a pas d'équivalent du côté Canon et qu'on peut également l'utiliser en format rogné à 10,5 mégapixels. L'avantage majeur, c'est que si vous avez des objectifs qui ne sont que pour format rogné, vous pouvez continuer à les utiliser.
Ah,
ça,
ouais.
J'ai trouvé ça génial. C'est définitivement un point fort.
Ouais.
Ce qu'on appelle DX puis FX.
Exactement. Quoi, exactement. Ça. FX pour full frame, plein capteur, et DX pour capteur rogné. On parle de ISO 100 à 6400. 5.5 images à la seconde,
mm-hmm.
un autofocus de 39 points et 9 points en cross-type, un écran de 3.2 pouces à 921 000 points,
mm-hmm.
c'est très bon, vidéo 1080p HD, on a le connecteur pour monitorer. Pour,
HDMI?
Pour le son. Pour pouvoir avoir ton son. Pour
écouter du son.
Une prise de micro.
Exactement, prise de micro. Mm-hmm. Alors, en fait, non.
Non, c'est pour entendre le son qui est enregistré.
Que tu entends.
Faire du monitoring.
Une prise d'écouteur.
Oui, exact. Ouais. Une prise d'écouteur, exactement. C'est ça que je cherchais. Le poids, c'est 760 grammes, 1,6 livres. Bien sûr, ça, c'est la caméra seulement, pas de batterie.
Le boîtier, tu veux dire.
Le boîtier, exactement. Pas d'objectif. Là. On a aussi, un niveau électronique, etc. Là, ça commence à être des affaires relativement, pour cette catégorie-là, là, normale. Là.
Mm-hmm.
Pour ses points positifs, plein capteur. Je pense que, regarde, ça va de soi, là, cachera pas. Là. Le plein capteur, l'avantage, comme on en a déjà parlé, c'est qu'on si on utilise un objectif, exemple à 10 mm, on a vraiment la largeur maximum. On a 10 mm. Ça peut être très, très intéressant.
Mm-hmm.
Prise en main de l'appareil est très bonne, est solide, un excellent fini. C'est évident que c'est un appareil haut de gamme. Là. Mm-hmm. C'est assez évident. Là.
On parle dans les combien?
Pour 2 400 $ avec pour l'objectif et 1 900 sans objectif.
Quand même abordable.
C'est
hein, pour
pas
un
si mal.
Capteur.
J'ai le goût de pleurer, c'est le prix que j'ai payé ma 7D. C'est à peu près, là, disons qu'un petit peu plus, un petit peu moins que ça, mais honnêtement, là, pour la différence de prix, si celle-là avait été sortie dans ce temps-là, la 7D, je l'aurais pas achetée.
Ah, mais ça, c'est toujours ça.
Mais bon, c'est ça s'appelle c'est l'électronique.
Deux ans après, c'est ça.
C'est toujours la même chose.
Complètement out, même pas un an des fois.
Je voyais récemment, il y avait la 6D en grosse vente chez Future Shop, qui mm-hmm. était 2300 avec l'objectif 24-105. Mm-hmm. C'est incroyable comme dire, là. C'est super bon, là. Ouais. Mais bon, c'est passé, là, mais bon.
Puis d'ailleurs, parlant de ça, le D600, tu dis avec objectif, c'est quel objectif qui vient avec?
C'est un objectif de 24-85 mm, 3.5 à 4.5, okay. avec stabilisateur d'image, qui est un objectif que j'ai trouvé assez compétent, mm-hmm. pas exceptionnel, mais qui fait un bon focus, qui a l'air quand même assez solide. C'est un bon objectif, là. C'est pas la catégorie, la plus haute catégorie, mais moi, j'ai trouvé en tout cas que...
Pour un bon objectif de kit qu'on appelle.
Exact.
Exact. OK.
Une chose qui m'a frappé, puis vraiment, là, j'avoue que la qualité visuelle, elle est très, très impressionnante. C'est 24 mégapixels, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y en a, mais les couleurs étaient très, très éclatantes. Beaucoup de détails. Vraiment, là, sur ce côté-là, là, j'avoue, puis j'ai vraiment vu la différence. Mm-hmm. Puis... Ça m'a vraiment charmé immédiatement. Là. J'étais là, mais mon Dieu, je comprends pas. Je fais rien de spécial, puis il me semble que mes couleurs sont plus éclatantes que sur ma propre caméra. Là. Ça m'a donné le goût d'aller regarder mes fonctionnalités, s'il y a quelque chose qui est... Parce que vraiment, là, c'est assez phénoménal, la différence. L'autre chose, ça, c'était à prévoir, mais ISO, très, très performant.
Mm-hmm.
Très performant. Normalement, puis d'ailleurs, c'est rare qu'on en parle, mais... L'ISO, on peut décider d'avoir des modes qui te permettent d'avoir un peu plus. Je parlais maximum 6400, mais il y a ISO étendu 1, 2 et 3.
Mm-hmm.
normalement, j'en parle pas beaucoup parce que il y a tellement de bruit dans ces modes-là que ça vaut pas la peine. Ben, savez-vous quoi? Celui-là, oui. J'ai pris des photos à mode étendue 1, qui est ISO 10000. Il n'y a pas tant de bruit que ça.
Mm-hmm. Okay.
Il y a moins de bruit que ma caméra à 1600. C'est assez impressionnant. Sincèrement, là, c'est assez impressionnant. Puis j'ai trouvé que même quand il y avait du bruit, il était plus beau. Okay. Je vais m'expliquer. C'est que, exemple, sur ma caméra, il y a tendance à faire des... vraiment comme un amalgame de points plus carré, tout ça. Puis celui-là, il est plus doux. Il y a probablement des algorithmes qui font, qui aident à l'adoucir, la réduction de bruit, etc. Mais souvent, ces algorithmes-là, ce que ça fait, c'est que ça t'enlève beaucoup de détails. Ce qui n'est vraiment pas le cas dans le cas présent. Franchement, au-dessus de... à 3200, là, c'est très facilement utilisable, les photos. Très facilement. On parle aussi, l'autre chose... Ça a failli être un point négatif, mais finalement, ça vient de changer récemment. C'est qu'on peut avoir du vidéo recording, de l'enregistrement vidéo par HDMI non compressé.
OK.
Ouais.
Ça, c'est très intéressant. Le défaut, je vais me faire une parenthèse parce que pour ceux qui l'ont, c'est que initialement, ce n'était pas en plein capteur. Il y avait une barre tout le tour. Puis là, tout le monde se plaignait en disant « Pourquoi qu'il y a la barre? Ça fait aucun sens. Le capteur, il devrait pouvoir le faire. » Et récemment, Nikon a sorti une mise à jour de le micro-logiciel et la barre a disparu. Ça, j'avoue que je trouve ça plate. Puis tu sais, je blâme pas Nikon. Canon le fait aussi. Ils le font tous. C'est de mettre quelque chose comme ça qui est juste pour te forcer à acheter le modèle plus haut pour avoir toutes les fonctionnalités. Mais c'est faux. Là. Il n'y a pas de raison réelle pourquoi. Mais au moins, ils ont répondu à la critique puis ont décidé de ressortir leur micro-logiciel pour ça. Fait que félicitations à ce point-là. Il y a beaucoup de monde qui aime cette chose-là, mais n'étant pas en plein capteur, ben ça cause d'autres limitations.
Mm-hmm.
On a deux cartes SD, deux emplacements pour cartes SD.
Et d'ailleurs, de plus en plus, hein, les appareils, les boîtiers... C'est des emplacements, des lecteurs de cartes SD. Le Compact Flash, on dirait qu'il est en perte de vitesse.
Sauf pour les
hautes
gammes. Nikon a passé un nouveau mode QNX, je ne sais plus trop quoi. C'est une nouvelle carte, là, supposément plus rapide. Mais Canon, si tu t'en vas dans le 1DX ou tu t'en vas dans le 5D Mark III, c'est encore Compact Flash.
Mm-hmm.
En tout cas, moi, je vous ai déjà dit mon expérience. Moi, je préfère de loin ma Compact Flash au SD, beaucoup plus solide. Beaucoup plus solide. Mais bon, regarde, ça c'est...
Mais tu vois, ça dépend de peut-être de la carte ou de l'utilisateur, parce que à date, j'en ai une, je pense, qui s'est décollée, là, mais sinon, ça m'est jamais arrivé de briser une carte SD.
Non, c'est ça, moi, ça m'est arrivé qu'une carte SD, mais bon, regarde.
Par contre, j'avoue, j'admets qu'une carte SD, ça doit être plus facile à perdre qu'une carte Compact Flash.
Oui, quand même, moi, j'avoue, c'est gros, une carte Compact Flash.
C'est plus facile à trouver aussi dans les magasins.
Oui, ça c'est vrai, par exemple.
C'était mal pris, là.
Oui, carte SD, c'est facile à trouver.
Ça se trouve facilement.
Ce qui est le fun, par contre, exemple, justement, comme de la 5D Mark III, où est-ce que tu as les deux?
Oui,
toi, c'est deux emplacements, c'est une SD et une Compact Flash. Mm-hmm. Ça, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes, tant qu'à moi, là, mais bon, c'est un détail. Donc, je disais aussi dans les points positifs, le mode DX, que je trouve qui est un ajout vraiment intéressant. Dans les points négatifs, les menus, mais ça, c'est moi. Mais par contre, il y a une chose que je trouve qui aurait dû être dedans, qu'on aime ou qu'on n'aime pas comment les menus sont arrangés, je n'ai pas trouvé de mode qui te permet rapidement de voir tous les settings, tous
les fonctionnalités.
Les réglages, exactement. Ouais. Tous les réglages qu'il y a sur ta caméra. Exemple, moi, j'ai une touche qui s'appelle Q, qu'on pèse dessus, puis je vois rapidement c'est quoi ma vitesse, c'est quoi mon type de mon white balance, ma balance des blancs, tout est là. Je le vois tout à l'écran comme ça, puis je peux me promener puis aller changer. Je ne vous blague pas, passé 6 heures à essayer de changer de ISO automatique à pas. Là, vous allez me dire, tu aurais pu regarder dans le livre. Mais en même temps, j'aime ça un, je manque de temps. Je vais être honnête, là, j'ai pas toujours. Je l'ai eu pendant une semaine. Là. Fait que j'avais pas beaucoup de temps pour passer au travers du livret d'instructions. Je le traîne pas toujours avec moi non plus parce que on veut pas le perdre, c'est pas à nous. Puis la troisième chose, c'est je me suis mis comme défi depuis que j'ai commencé à faire ces critiques-là, à essayer. Je m'y connais en photo. Je me dis, je devrais être capable de trouver toutes les choses dans les menus. Quand j'ai de la misère, je trouve pas ça normal.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est quelque chose qui est moins intuitif. Quand je l'ai trouvé, finalement, c'est clair, mais j'aurais trouvé ça intéressant que dans un menu, je puisse voir, OK, ISO, il est automatique ou pas. Je ne l'ai pas trouvé. Mm-hmm. Peut-être qu'il est là, mais je comprends pas. Là, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de choses que je l'ai pas trouvé. Peut-être une petite réorganisation, c'est mon opinion. Les fans de Nikon vont être habitués, puis je pense qu'ils n'auront pas de problème, mais c'est moi. Le mode Live View, qui vous permet d'utiliser la caméra avec l'image à l'arrière, est très moyen. Il y a beaucoup de choses qui sont manquantes. Il n'y a pas d'histogramme, il n'y a pas de rien. Quand on prend des vidéos, après qu'ils enregistrent, on perd la photo immédiatement, ça peut être long. C'est moyen. Mm-hmm. Moi, je ne l'utilise pas beaucoup, mais j'ai remarqué que c'était pas la meilleure fonctionnalité que j'ai vue de ça. Est-ce que c'est grave? Vraiment pas, parce que je n'utilise jamais ça.
Mm-hmm.
Mais je me suis dit, pour certaines personnes, ça peut être quelque chose qui est important. Ça serait bien de le mentionner. Mm-hmm. Le mode Live View n'est pas la meilleure des choses.
Okay.
J'ai trouvé aussi les points d'autofocus. Oui, il y en a beaucoup, mais je les ai trouvés très regroupés. Je trouvais qu'il aurait pu être un peu plus généreux, en mettre un petit peu plus en hauteur, un peu plus en largeur. J'ai trouvé que c'était un peu...
C'est très condensé
compact, etc. Okay. Encore une fois, je me suis dit, coudon, c'est-tu moi ou c'est-tu... Juste parce que j'ai pas trouvé comment le configurer comme il faut. Puis je suis allé faire quelques recherches, puis j'ai pas été le seul à mentionner ça, à avoir cette... limitation là, fait que je me dis vraiment, ils ont peut-être juste trop groupé ça.
Parfait.
Fait que finalement, en tout cas, ce fut malgré mes quelque chose que j'ai moins aimé, c'est un appareil qui est vraiment superbe. Vraiment, là, j'avoue que c'en est un autre là, que j'ai redonné à regret. Là, je l'aurais bien gardé avec moi. Là, mettons que si vous êtes fan de Nikon, là, je vous le conseille fortement si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus poussé. Pour ce prix-là, là, c'est dur à battre. Franchement, là, bravo Nikon.
Ah, super. Et donc, ça conclut ce 26e épisode. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez participer au défi photo, envoyez-nous vos photos à podcast@objectifnumerique.com. Évidemment, s'il vous plaît, envoyez-nous une photo en format JPEG et non en un format RAW. Mmh. Ça va être plus facile un peu à traiter et plus léger à transférer aussi. Et si vous voulez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, au numérique, et sur les autres, c'est Objectif Numérique. Merci beaucoup, messieurs.
Merci.
Merci.
Merci à vous, chers auditeurs. À la prochaine.